donne ce film. Donc cette soirée sera la dernière des rencontres que nous avons consacrées à Garcia Marquez tout au long de cette année. Et je voudrais d'abord remercier les amis, ceux qui nous ont accueillis ici, d'abord la Maison de l'Amérique latine, Anusson, François Vitrani, Evelyne Lévy et toute leur équipe. Remercier également l'ambassadeur de Colombie et le secrétaire et le ministre plénipotentiaire Sergio Restrepo qui nous ont beaucoup aidés à tout point de vue dans la réalisation de ces rencontres qui, je vous le rappelle, sont organisées par la MET, la Maison des écrivains et des étrangers et des traducteurs, qui est à Saint-Nazaire et dont le président est Patrick Bonnet et le directeur Patrick Deville, qui sont tous deux ici présents. Alors cette dernière soirée de rencontre donc fait suite à d'autres, les premières qui ont eu lieu au mois de mars à Marseille, dans le cadre d'une manifestation que la MIT organise tous les ans autour d'un auteur. Alors il y a eu, l'année dernière c'était Cortazar, il y a quelques années Rulfo, il y a d'autres années, une autre année il y a eu Malcolm Lowry, il y a eu Antonio Tabucchi, et cette année donc, un an après le décès de Garcia Marquez, Patrick Deville avait souhaité consacrer ses rencontres à Gabo. Elles ont donc commencé au mois de mars à Marseille, par la projection de ce film et un débat avec des étudiants. Et puis, elles se sont prolongées à Fontevraud, à l'abbaye de Fontevraud, au mois de juin, avec un colloque qui était entièrement dédié à l'œuvre littéraire de Garcia Marquez, où il y a eu l'intervention d'universitaires, d'écrivains et de quatre de ces traductrices européennes, venues un peu de tous les pays d'Europe, donc pour parler de la façon dont elles ont traduit Garcia Marquez et quelles ont été les difficultés ou le plaisir qu'elles ont rencontré dans leur travail. Et puis donc la troisième partie s'achève ce soir. Hier soir, elle était consacrée avec le documentaire d'Yves Billon, Garcia Marquez et l'écriture sorcière. Ça marche très fort là du coup. Et un débat avec sur ce qui est l'autre partie de l'œuvre de Garcia Marquez, en fait le journalisme, qui est quand même une œuvre considérable. Et nous avons eu l'honneur d'accueillir Jaime Abello, qui est le président de la Fondation du Nouveau Journalisme de Carthagène, et entre autres Gérald Martin, le biographe de Gabo, qui, je vous le rappelle, a écrit cette biographie qui est publiée chez Grasset, que l'on peut tous trouver en librairie. Et il y a eu aussi également d'autres intervenants, et puis ce soir, nous le consacrons donc à Garcia Marquez et au cinéma. Donc je vais demander à Damien Aubel, qui est le modérateur de cette soirée, et à nos deux invités de venir. Et je vous rappelle donc que l'ensemble des manifestations qu'il y a eu cette année dans le cadre de ces journées vont faire l'objet de rédaction d'actes. Il y aura donc un livre d'actes bilingue sur toutes les conférences, les débats qu'il y a eu donc au cours de cette année. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Patrick ? Eh bien, bonne fin de soirée et merci beaucoup à vous d'être venus si nombreux. Merci beaucoup.
Bonsoir. Ah oui, ça marche. Bonsoir. Merci donc d'être venus si nombreux pour assister à la fois à la projection de cette très belle adaptation de Gabriel Garcia Marquez et également pour cette rencontre où nous avons la chance ce soir d'avoir deux intervenants pour aborder ce qui est peut-être le troisième pan de l'œuvre de Gabriel Garcia Marquez après la littérature et le journalisme, c'est-à-dire le cinéma. Alors le cinéma, on a donné comme titre à cette soirée le cinéma un amour contrarié, et c'est donc une référence directe au livre de Maria Lourdes Cortés. Donc bonsoir. Maria Lourdes Cortés, vous êtes donc l'auteur d'un livre sur précisément Gabriel Garcia Marquez et le cinéma, tous les rapports qui ont, voilà, donc vous pouvez voir l'objet, hein. Donc tous les rapports qui ont pu unir Gabriel Garcia Marquez et le cinéma, des rapports qui sont des rapports amoureux à tous les sens du terme, puisque ce sont des rapports qui oscillent entre la frustration et l'épanouissement, donc on aura amplement l'occasion d'en parler. Vous êtes Maria Lourdes Cortés, vous avez donc travaillé à Paris, fait un doctorat à Paris sur la littérature et sur le cinéma. Après quoi vous êtes beaucoup investi dans le cinéma, beaucoup investi dans des fondations, en particulier la fondation pour le cinéma de Cuba et de l'Amérique latine qui est à Costa Rica, je crois. Vous avez également travaillé avec la fondation pour le nouveau cinéma latino-américain qui, elle, se trouve à Cuba. Vous avez également participé à quelques ateliers, nous aurons l'occasion d'en reparler, avec l'école de cinéma qu'a fondée, entre autres, Gabriel Garcia Marquez à Cuba. Et donc tout cela a fini par donner naissance à votre livre, que je recommande à tous les hispanophones et qui doivent être nombreux ici, c'est vraiment un livre passionnant. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Emmanuel Vincenot. Donc Emmanuel Vincenot, vous êtes universitaire, vous êtes spécialiste de Cuba et du cinéma. Vous avez notamment travaillé donc sur le cinéma à Cuba et vous préparez en ce moment un livre sur l'histoire de la Havane, je crois. Oui. Voilà donc deux intervenants et qui vont nous permettre donc de croiser les réflexions autour de Gabriel Garcia Marquez et de son rapport qu'il a pu qualifier dans une interview comme un mariage difficile avec le cinéma. Mais peut-être avant d'arriver au mariage, on va peut-être commencer par les tout débuts. L'histoire d'amour commence tôt, on le sait, et Gabriel Garcia Marquez est tombé très vite dans le bain du cinéma. Alors peut-être pourrait-on, Maria Lourdes Cortés, évoquer très rapidement les premiers contacts de Gabriel Garcia Marquez et le cinéma qu'il a connu assez tôt grâce à son grand-père, je crois.
Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je parle très mauvais français. Et bon, tu m'aides. Ok. Non, parce que quand j'ai fait les doctorats, ça passait 20 ans, donc. Ok, mais on est là. Merci beaucoup à Omet, à Patrick, à Anne et à la Maison de l'Amérique latine. Je suis vraiment touchée d'être là. Ouf, après beaucoup de choses qu'on a fait ici quand j'étais ministre conseiller de culture de Costa Rica. Bon, Garcia Marquez, et oui, je crois qu'il a aimé la. Le cinéma, qu'il croyait que le cinéma pouvait montrer plus facilement ce monde énorme et hyperbolique, pardon. Mais bon, au moment qu'il a découvert l'industrie, il a su que c'était pas possible, non? Et bon, avec l'abuelo Nicolas Marquez, quand il était trop petit, il allait toujours tous les dimanches voir le cinéma. Il était trop Tom Mix, que c'était le western de l'époque. Et lui aussi, avec les grands-pères, il y a eu toutes les histoires. Et García Márquez dit toujours qu'il aime les histoires, n'importe de quelle façon on les raconte. Ça va? Ok. Et bon, d'abord, je crois qu'il voulait les raconter, bon, évidemment en littérature, mais aussi au cinéma. Et il a fait un essai avec des copains de Cartagena, non, de Cali, qui s'appelle La Langosta Azul. Et il a dirigé avec trois personnes, Alvaro Cepeda Samudio et deux amis. Et bon, je crois que c'est un peu une catastrophe. On peut le voir dans YouTube. Et c'était un truc vraiment, vraiment très expérimental. Et bon, mais il y avait déjà l'envie de continuer. Et bon, et vivement, non, il a commencé à écrire à les spectateurs. Je vais faire les résumés vite, non, et faire des chroniques du cinéma. Il allait beaucoup au cinéma et les chroniques, c'était surtout il voulait éduquer les publics, non? Et après ça, oui, il était reporter. Reporter, ok. À les spectateurs, et il est venu en Europe, et finalement, donc il est allé au célèbre école de cinématographie de Rome, et où il a trouvé Fernando Birri, Tomás Gutiérrez Alea, bon, et d'autres réalisateurs, mais il a pas supporter l'académicisme, oui, exactement. Et donc il est venu à Paris et il attendait son chèque, son l'argent. Et il a écrit, comme vous savez, le colonel ne tient qu'il l'écrive à une recoujasse. Pas de lettre pour le colonel. Et après, il est parti à Mexique avec $20 et un enfant, et sa femme, évidemment. Et il a commencé avec le cinéma. Il a fait des scénarios, oui, des scénarios. Et il a commencé à vivre de ça. Mais bon, il a fait d'abord El Gallo de Oro de Rulfo avec Carlos Fuentes. Et c'était García Márquez et Carlos Fuentes, personne ne les connaissait. Et Carlos Fuentes, pour l'aider à mexicaniser le dialogue. Je ne sais pas si on peut dire ça. Exactement. Bon, mais en tout cas. Et après, il a fait d'autres scénarios. Et finalement, le ton de Cien Años de Soledad, qu'il voulait écrire depuis toujours, est tombé. Bon, c'est une légende. Bon, je ne sais pas si c'est une légende, mais il allait à Acapulco et bon, il est retourné 18 mois chez. A ver, 18 meses encerrado, escribiendo. Parce que là, c'est l'émotion.
18 mois, donc enfermé, en train d'écrire.
Et son esposa tratando de mantener la casa.
Et donc sa femme en essayant de tenir la maison.
Bon, et quand il sale, tous savons que la histoire cambia, non?
Et quand il sort, on connaît tous comment l'histoire change.
Ok. Sin embargo, bueno, se había adaptado. On avait adapté En este pueblo no hay ladrones.
Dans ce village, il n'y a pas de voleurs.
Ok. et que c'est un très 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 bon film en blanc et noir.
En noir et blanc
et très très bon et lui il faisait les types qui prennent les billets au cinéma, les boletero, et lui il m'aime. Et il y avait aussi Rulfo, il y avait Luis Buñuel qui faisait un curé, on dit comme ça. Bon, c'était tous les copains qui travaillaient dans les films. Aussi, après, ils font Presagio, mais Presagio, ce n'est pas une adaptation, c'est un petit papier qu'il a fait comme ça. Et après aussi, il y avait Arturo Ripstein, que c'était le fils d'un grand producteur mexicain. Qui c'était un Mexicain commercial, non? Et il avait grandi à côté de Buñuel. Et à 21 ans, et Ripstein dit à son père, « Si tu ne me laisses pas faire un film, je me tue ou je te tue. » Donc, il a dit, « Bon, écoute, on va voir. » Et il y avait un scénario de Gabo qui s'appelait « El Charro ». Comme on dit, el charro, el sombrerón, el... C'était... Non, comment on dit? Bueno,
le grand chapeau mexicain.
Oui, oui, exact. Et donc, le père, il a dit, bon, tu peux le faire, mais en western. Parce qu'en Allemagne, il y avait, je ne sais pas, une mode de western. Et c'était fantastique, le film. Mais bon, et ça, c'était avant 100 ans de solitude. Et bon, et après... Ils sont venus plusieurs adaptations, mais c'était le contraire. Tout le monde les cherchait pour faire vite. Et quand on commence la conversation, pour soltarlo. Ah, et pourquoi entonces estaba sufriendo tanto? Ok. Donc, il y a eu, à ver, La viuda de Montiel, La veuve de Montiel,
La veuve de Montiel,
de Miguel Itin. Ça, c'était 1979. Après aussi, il y avait... Que c'était aussi une petite idée qu'après, c'était le film et après, c'était la nouvelle. Que c'était... Et Maria de mi corazón, mexicana.
Maria de mon cœur.
Que c'est l'adaptation... Bon, c'est pas l'adaptation, mais c'est la santa dans les recueils de... Et 12 cuentos peregrinos.
Donc, c'est le personnage de la Santa dans le recueil de 12 nouvelles.
Exactement, c'est Jaime Humberto Hermosillo, le Mexicain. Et luego, on a fait El Mar del Tiempo Perdido.
Le Mar du Temps Perdu. La Mer du Temps Perdu.
Une vénézuélienne que je ne suis pas capable, et je crois que toi non plus, de dire son nom. Je ne sais pas. Parce que ce n'était pas un homme venezuelan. Alors, le decimos. Après, il y a Herendira, de Ruy Guerra, et un señor muy viejo con unas alas enormes.
Un très vieux monsieur avec des ailes très énormes.
Qui a fait Fernando Birri, et que lui-même a fait les hanches. OK? Et bon, ce sont des copains à García Márquez, ce sont des films pas très réussis, sauf En este pueblo no hay ladrones, je crois. Et lui, après, il a donné de l'argent de ces 6 scénarios pour faire une série, Les Amores Difíciles, les Amours Difíciles, avec la télévision espagnole. Et il a fait 6 films, Cartas del Parque, de Tomás Gutiérrez Alea, Cartas del Parque, que c'est un fragment de El Amor en los Tiempos del Cólera, L'Amour en temps de colère. Aussi, il y a Fábula de la Bella Palomera, que c'est la même, c'est aussi un extrait de El Amor en los Tiempos del Cólera. Bon, Milagro en Roma, ah non, Milagro en Roma, c'est la Santa, excusez-moi, et María de mi corazón, c'est Solo vine a hablar por teléfono. Je mélange, excusez-moi. Aussi de 12 cuentos peregrinos, comment ça s'appelle? Vagabond. Et finalement, et El verano feliz de la señora Forbes aussi. Et après, je crois qu'il y a eu une petite boom parce que c'est bon, Édipo Rey, que c'est bon, l'adaptation d'Édipo Sophocles, mais dans le contexte violent de Colombie. Et après, Chronique d'une mort annoncée, et Francesco Rossi avec tout l'Europe, Ornella Muti, et Anthony Delon, Jean-Marie Volonté. Bon, il y avait beaucoup, beaucoup des acteurs européens. Et El Coronel no tiene quien l'escriva, Arturo Ripstein, et L'amour en los tiempos del cólera, L'amour au terre de colère, choléra, la vision Hollywood, et O veneno de madrugada, que c'était La mala hora, de Ruger aussi, et finalement, celle qu'on a vue, De l'amour et autres démonios, et finalement, Memoria de mis putas tristes, qui a fait les Danoises, qui avait fait les films de... comment se llama Isabelle Allende? Non, je crois. Je suis pas sûre, mais son nom, c'est aussi difficile, donc on va le dire. Il s'appelle Henning Carlson, et Jean-Claude Carrier, il a fait les scénarios. Et celle de la venezolana, que c'est vraiment, vraiment difficile, c'est aussi, je vais vous dire, ok, c'est... Ah, ok, et il y a une autre version de Tiempo de morir, que c'était les premières de Ripstein, que le scénario c'est El Charro, mais après il a nommé Tiempo de morir. Et le Tiempo de morir de Ripstein, c'était 65, 14, 25, c'était Jorge Ali Triana, le Colombien, qui a fait deux versions, une version pour la télé, une version pour cinéma, à couleur, mais avec beaucoup de choses en commun entre les deux versions. Bon, mais celle de Ripstein est beaucoup plus minimaliste. Ok, et pour finir, ça s'appelle Solveig Hohenstein, la vénézuélienne. Et bon, après, en 1985, il a fait la fondation du nouveau cinéma latino-américain.
Ça, on y reviendra après, peut-être.
Exactement. L'école est... Maintenant, on va parler.
Voilà, donc on sait à peu près tout maintenant sur la carrière cinématographique de Gabo, puisqu'on dit Gabo, entre intimes. Alors, repartons peut-être un peu au début. Vous avez évoqué tout à l'heure son passage en Italie, à Rome, à la Scuola Sperimentale Cinematografica, alors qu'il était journaliste en 1955. Et pour Gabriel García Márquez, c'est une découverte, c'est la découverte du néoréalisme. Alors, Emmanuel Vincenot, vous pourriez peut-être nous dire un petit peu en quoi le néoréalisme est important pour Márquez et en quoi un film comme Le voleur de bicyclette ou peut-être plus encore Miracle à Milan ont pu avoir de l'importance pour lui.
En fait, c'est important pour lui, mais pas uniquement pour lui. Et pour compléter ce qu'a dit Emmanuel Lourdes, je peux peut-être rappeler que en fait, García Márquez, il s'inscrit dans un contexte plus général, une génération d'intellectuels et d'artistes latino-américains qui découvrent le cinéma et le néoréalisme à peu près en même temps, et qui vont tous chercher à aller à Rome à peu près en même temps. García Márquez a une éducation cinématographique qui est la même que celle de bien d'autres écrivains ou futurs cinéastes à la même époque. On pourrait citer Cabrera Infante, qui a à peu près le même parcours, Tomás Gutiérrez Alea. Bon, on a parlé de Fernando Birri, qui va rejoindre à Rome. Julio García Espinosa, un autre réalisateur cubain. Donc ce sont des gens qui, dans leur jeunesse, vont au cinéma, voient ce qui passe. Et ce qui passe, c'est essentiellement des films populaires hollywoodiens, américains. Alors, tu as parlé de Tom Mix, effectivement, qui est un héros qui revient dans la bouche de nombreux cinéphile de cette époque-là. Et le néoréalisme, en fait, ça va être un choc parce que ça va être perçu comme très différent de ce qu'ils avaient l'habitude de voir, justement, dans ces cinémas de quartier, ces cinémas populaires. On voyait beaucoup de western, de films avec Gary Grant, avec Gary Cooper. On voyait un peu de tout et n'importe quoi. D'ailleurs, pas toujours des bons et des grands films, mais il y avait Le Tout Venant, la série B. Le néoréalisme va être quelque chose qui va beaucoup attirer l'attention des intellectuels, des écrivains, des cinéastes ou apprentis cinéastes, parce que ça offre quelque chose de nouveau, de neuf, et qui est ressenti comme plus en phase avec la réalité latino-américaine. Il y a tout un tas d'aspects qui sont propres au néoréalisme, comme l'intérêt pour la vie des classes populaires, une approche donc réaliste basée sur la peinture de la vie quotidienne, l'absence de stars. Tout ça semble transposable à la réalité latino-américaine. Et surtout, les gens qui se destinent au cinéma se disent qu'en imitant les cinéastes néoréalistes, on a plus de chances d'arriver à faire des films authentiquement latino-américains plutôt qu'en tentant de courir après le modèle hollywoodien qui est inatteignable. Donc voilà pourquoi García Márquez, avec Birri, avec Tomás Gutiérrez Alea, avec d'autres, vont aller en Italie pour découvrir comment on fait des films néoréalistes pour tenter ensuite d'importer le modèle en Amérique latine. Alors un des problèmes, peut-être j'anticipe sur ce qu'on va dire à présent, c'est qu'ils arrivent en Italie, alors on a dit les dates 54-55, c'est un moment où le néoréalisme est mort en fait, où le courant s'est épuisé, où il ne reste plus que peut-être Zavattini qui tient encore à défendre ce modèle, mais donc ils arrivent un peu après la bataille, d'où la déception de García Márquez. Mais c'est intéressant de voir que d'autres écrivains, d'autres cinéastes vont décrire la même expérience déceptive de leur séjour romain.
Oui, mais c'était. Tu as dit quelque chose de très important pour nous. Et pour la, par exemple, moi je fais une histoire de l'Amérique centrale, du cinéma de l'Amérique centrale. C'est-à-dire, le cinéma cubain après la Révolution, avec beaucoup de néoréalisme, comme tu dis, est venu, disons, on l'a montré à l'Amérique centrale, par exemple, et c'était la lumière de comment on pouvait faire du cinéma. Parce qu'on avait les modèles mexicains et les modèles Hollywood, impossible de faire, non? De faire des films comme ça. Donc, oui, c'est ça. Et ça, c'est un peu les modèles de cinéma que García Márquez voulait un peu. Je pense à De l'amor y otros demonios. Finalement, c'est un film très bon marché, entre guillemets, pas pour l'Amérique centrale, mais pour le reste du monde. Ça coûtait 2 millions de dollars. Et García Márquez, la seule chose qu'il a demandé à Hilda, c'est pas des acteurs importants, tu fais ce que tu veux. Il a demandé même en blanc, en noir et blanc. Mais bon, ça, Hilda, il n'a pas voulu. Et c'est ça, il aimait, et je crois que les meilleurs films de García Márquez, ce sont les films petits, pas les grandes productions comme La mort au temps de colère ou même Chronique d'une mort annoncée.
Alors justement, puisqu'on a parlé de la place du néoréalisme, de cette quasiment ce qu'on pourrait appeler une vocation du cinéma, tout à l'heure Maria Lourdes Cortés, vous rappeliez que Márquez était parti au Mexique avec une poignée de dollars et l'envie de faire du cinéma, et pourtant, je reprends un de vos termes, Manuel Vincenot, il y a une déception chez Márquez. Il me semble que le moment où peut-être Márquez s'est jeté vraiment pleinement dans la littérature, c'est lorsqu'il a écrit « Cent ans de solitude », et je crois me rappeler qu'il avait pu dire que tout ce qu'il y avait dans « Cent ans de solitude », c'était des idées qu'il avait eues et qui avaient été refusées par les producteurs. Alors peut-être pourrait-on revenir un petit peu sur cette déception de García Márquez. Qu'est-ce qu'il a causé?
Et bon, c'est l'industrie. C'est vraiment impossible. C'est le monde hyperbolique et fou, merveilleuse, magique de Garcia Marquez en 90 minutes et avec toutes les contraintes de l'industrie, et surtout en ce moment-là, c'était impossible, non, pour lui, imagine. Et avec les producteurs, avec les scénaristes, ou disons que c'est lui, mais aussi la lumière, l'actuation, c'est pas possible pour lui. Il voulait le maîtriser tout. Et ça, avec la littérature, c'est fantastique. Maintenant, j'imagine, et Peter Jackson, en train de faire 100 ans de solitude, peut-être c'est possible. Lui, il n'a jamais voulu vendre les droits. Il a eu beaucoup de comment on dit, exactement, mais il n'a jamais voulu. Mais c'est ça, c'est l'industrie, et c'est une autre chose. Et pour, non, pour lui, il faut le lire pour comprendre que roman comme L'automne del patriarca, Émile Kusturica, il a voulu le faire, mais bon, ça pas. Et aussi Akira Kurosawa. Mais bon, c'est la folie avec la folie. Ça, peut-être ça aurait marché entre Kusturica et Garcia Marquez, mais c'est impossible, non? Et lui, c'est difficile de le voir dans un film. Mais non, peut-être on peut penser à ça, mais pas à l'Amérique latine aussi. Donc.
Emmanuel Vincenot, l'état de l'industrie en Amérique latine, en particulier au Mexique et dans les pays dans lesquels Gabriel Garcia Marquez a écrit des scénarios, empêchait vraiment l'irruption, enfin la liberté d'un homme comme Marquez.
Alors lui, quand on lit ses interviews, quand on lit ses déclarations sur la difficulté à rentrer dans ce qui est avant tout un milieu professionnel, c'est un milieu artistique, créatif, mais c'est aussi un milieu professionnel, il a eu beaucoup de mal à s'insérer dans ce milieu, qui est un milieu où il y a des pratiques professionnelles particulières, où on travaille toujours en collaboration, où on n'est jamais totalement maître de son projet. Donc il y a ce côté structurel, il a du mal à s'insérer dans des structures collectives qui vont rogner son talent créatif, son imagination. Il y a quelque chose qui en lui le tourne plus, il le dit, vers la solitude de l'écriture, où on a le contrôle absolu du processus créatif. Mais je pense qu'après, il y a des causes qui sont plus conjoncturelles, qui sont le fait qu'il cherche à s'insérer dans le milieu du cinéma. Donc on l'a dit, à partir de 1961, de manière professionnelle au Mexique, et c'est un moment où le cinéma mexicain est en crise. Alors la crise du cinéma mexicain, elle a commencé un petit peu avant, vers la fin des années 40, début des années 50, mais à partir...
Ça continue.
Oui, la crise du cinéma mexicain, c'est El cuento de un cacabal. Mais donc, dans les années 60, le cinéma mexicain est en crise avérée. Il y a différentes causes, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a une baisse de fréquentation, une difficulté à financer les films, une difficulté surtout à renouveler les talents. C'est un système professionnel qui est sclérosé par un syndicalisme qui est très, très, très fort. Et donc, l'émergence de nouveaux talents est difficile. Alors, Garcia Marquez arrive à un moment où, justement, il y a des initiatives, notamment impulsées par l'État, pour essayer d'injecter du sang frais, mais ça se passe mal. Et je pense que le drame professionnel, encore pour rester à ce niveau très, très terre à terre, de Garcia Marquez, c'est qu'il tente de s'insérer dans un univers complexe, celui du cinéma, sans doute au mauvais endroit et au mauvais moment. Et on peut se demander pourquoi, après avoir connu Birri, après avoir connu Gutiérrez Salea, Julio García Espinosa, des Cubains, et après avoir connu la révolution cubaine en travaillant comme journaliste pour Prensa Latina, pourquoi il ne travaille pas à partir de 59, 60, 61 à l'ICAIC, qui est en train de se monter et qui devient un pôle continental de production cinématographique. Alors ça, c'est, j'ai pas de réponse à ça, mais c'est un peu un mauvais choix qu'il fait, ou bon, peut-être par hasard de l'existence, il se retrouve à vouloir faire du cinéma dans un pays où le cinéma est de plus en plus difficile à produire, alors que dans l'île d'à côté, le cinéma est bouillonnant, il y connaît des amis et il ne s'y trouve pas. Donc c'est un peu un paradoxe pour moi.
Et oui, mais c'est facile parce que vraiment, Julio García Espinosa et Fernando Birri. Après, ils sont devenus très, très copains, mais à ce moment, c'est comme presque toujours Álvaro Mutis, son grand, grand, grand ami colombien qui est à Mexique, qui lui dit, viens, je vais te trouver de travail, non? Et lui, il venait avec l'idée de faire du cinéma, et donc il a contacté avec beaucoup d'artistes de cinéma. Et bon, il a resté jusqu'à la fin de sa vie au Mexique, mais tu as raison, Cuba. Et peut-être c'est pas le moment, mais après il a fait tout, et moi je dis tout parce que lui il a aidé énormément le cinéma de l'Amérique latine en faisant la fondation et l'école, et il a fait à Cuba justement. Et on a peut-être 1000 jeunes qui des fois je ne suis ils sont plus jeunes, mais qui fait le meilleur cinéma à l'Amérique latine en ce moment-là. Et ça, c'était grâce à deux personnes, Fidel Castro et García Márquez. Et c'est ça, non? Et en ce moment, et moi, je trouve que bon, finalement, je fais des études, des adaptations et tout ça, mais je crois que le plus important de García Márquez, son héritage le plus important, c'était la fondation et surtout l'école, non? Et qu'il aimait, et c'était l'école de Gabo. Et donc, et les gens, il y a eu Robert Redford et Francis Ford Coppola et Costa Gavras et tout le monde voulait aller à l'école de Gabo, et c'était magique aussi parce que c'était Cuba, et ça a été la folie en ce moment-là. Et maintenant l'école est en crise parce qu'il n'y a plus Gabo et il n'y a plus Fidel, non? On va voir, mais ça c'était magique. Et l'autre chose géniale, je ne sais pas si vous savez, que son fils il est réalisateur, et il est très très bon réalisateur. Il est complètement différent du monde de García Márquez. Il est très, très, très minimaliste. Il travaille aux États-Unis avec des femmes très importantes, Glenn Close, Sissy Spacek, des actrices avec d'histoires de femmes. Et rien à voir avec García Márquez. Et lui, il s'appelle Rodrigo García, donc n'importe qui, non? Et il a fait des films très très beaux, et aussi il a participé dans des séries comme Les Sopranos, Carnaval. Il est très très prestigieux. Et je vais raconter une anecdote, est-ce que je peux? Et, non, parce qu'un jour à la fondation, il y avait tous les amis de García Márquez, cinéaste, Orlando Senna, Birri, Julio García, Botiton, il était mort déjà, mais beaucoup. Et il montrait un des films de Rodrigo García, de son fils. Et Neuf vies. Et je recommande vraiment. Et j'étais là, et je vois, je tourne, comme ça je commence les livres, et je vois un monsieur, que ce n'était pas García Márquez, c'était un monsieur, comme ça, absolument nerveux, tenso, comme ça, tendu, en train de voir les deux heures du film de son père et de son fils. Et vraiment, je crois que c'était le seul moment que ce n'était pas García Márquez, c'était un père. Et bon, à la fin, tout le monde a parlé, etc. Moi, je n'aime pas de... OK. Mais à la fin, quand il partait, j'étais en face avec des copains, et on a dit, bon, on n'a pas l'âge de demander des autographes. Oui. Donc, il faut dire quelque chose d'intéressant, sinon... Et je me suis souvenu qu'on avait gagné pour les films 200 000 $. Donc, je me dis, je vais dire. Donc, je dis... Vous savez, je suis la copine de Hilda Hidalgo de L'Amour y otros demonios, et il vient de gagner 200 000 $. Donc, il s'intéressait beaucoup. Chaque fois que je parlais de lui, du cinéma, il s'arrêtait. Vraiment, c'était une passion pour lui. Et il m'a dit, et pourquoi je ne le sais pas? Je dis, bon, peut-être parce que vous n'êtes pas important. Bon, il a ri. Il m'a pris la main comme ça, il m'a dit, j'étais tellement nerveux. Et je dis, oui, je sais. Et il m'a dit, mais vous savez, il n'y a rien à moi dans ce film. Et je dis, oui, oui, c'est pas... No tiene gracia. Il n'y a pas de sens d'être le fils de papa, non. Et Rodrigo Garcia, il est un vrai réalisateur. Et donc, il me dit, je suis content, le film va être... Il m'a donné un besito. Et bon, mais c'était tellement humain. C'était pas Garcia Marquez comme on le voyait. Bon, je l'ai vu plusieurs fois, mais toujours, verdad. Et là, c'était vraiment comme s'il m'a raconté un petit secret. Mon fils, et je vais perdre avec mes amis, non? Et c'est toujours dans mon cœur. Mais et ça, c'est l'autre chose que je trouve qu'il a. Bon, pour moi, il y a des films magnifiques dans ces adaptations, mais la Fondation, l'Escuela et Rodrigo Garcia surtout. Et c'est comme son héritage du ciné. Et bon, vous m'avez compris, non? Sous grand, claro, al ciné.
Alors, puisqu'on parle d'héritage, c'est aussi la façon dont les textes de Garcia Marquez sont reçus par les réalisateurs, parce que les... Alors, pour le dire très vite, je vais prononcer la formule réalisme magique. On sait que c'est un raccourci, c'est un peu hâtif. Il n'en reste pas moins que c'est une forme d'écriture, un imaginaire, et que ça présente nécessairement des difficultés d'adaptation. Alors, peut-être pourrait-on les évoquer quand vous avez rappelé les films tirés de l'œuvre de Garcia Marquez. Vous avez évoqué quelques ratés. Alors, une question peut-être, Emmanuel Vincenot, selon vous, à quelles difficultés se heurte un réalisateur quand il cherche à adapter, par exemple, un film comme Pas de lettre pour le colonel ou tout ce qu'on voudra?
Ben, oui, c'est vrai que c'est une question que je me suis posée sur un film en particulier qui est Chronique d'une mort annoncée, mais j'ai appliqué cette interrogation à ce film-là parce qu'il fallait bien prendre un objet de réflexion. Mais je me la suis posée pour de très nombreuses adaptations. Je pense que de manière générale, c'est pas une constatation, mais c'est une piste peut-être de réflexion. Je pense que les romans de Garcia Marquez présentent une extraordinaire fluidité narrative. C'est ce qui nous séduit en tant que lecteur. Je me souviens avoir dévoré je ne sais combien de romans à chaque fois en deux jours. On est happé par la phrase et donc pense-t-on par le récit. Mais quand on est cinéaste et qu'on doit adapter l'ensemble du roman, peut-être qu'on s'aperçoit qu'il y a des problèmes dramaturgiques. Et l'écriture scénaristique, elle a finalement assez peu à voir avec l'écriture romanesque. Elle a plus à voir avec l'écriture dramaturgique. Il y a des découpages en actes, en scènes. Il faut savoir construire un personnage, maintenir une vectorisation de ces personnages, une tension narrative. Et je pense que assez souvent, les romans, en fait, présentent de lourdes difficultés dramaturgiques. Si on prend par exemple Pas de lettre pour le colonel, si je résume, alors très grossièrement, c'est à la hache, hein. le pitch, si je fais le pitch du film et de l'histoire, c'est quelqu'un qui attend pendant 27 ans une lettre qui n'arrive jamais. Il n'y a rien de moins cinématographique que cette histoire-là. C'est une dramaturgie très, très pauvre. Alors évidemment, le talent littéraire de Garcia Marquez fait de ce point de départ tout autre chose. Mais quand on revient aux fondamentaux dramaturgiques, on s'aperçoit que c'est très difficile de bâtir un scénario captivant là-dessus. Le cinéma et l'écriture scénaristique ont pour essence, même si on peut trouver évidemment tout un tas d'autres contre-exemples, mais quand même le mouvement. Et très souvent, on s'aperçoit que dans les romans qui sont à adapter, le personnage principal est soit très passif, Dans Chronique d'une mort annoncée, le personnage principal, il attend juste qu'on le tue. Dans Pas de lettre pour le colonel, bien entendu, il y a tout un tas de sous-intrigues, mais l'intrigue principale, c'est quelqu'un qui attend que quelque chose arrive. Et on pourrait reprendre même des scénarios pris par, rédigés directement par Garcia Marquez. On retrouve cette même lourdeur ou cette même pesanteur de la trame. Et quand les mots ne sont plus là, on a l'impression que le cinéma fait apparaître ça, et ça devient très difficile, je pense, à gérer pour le réalisateur. Donc voilà, je pense que c'est déjà une première piste, peut-être.
Et moi je prends la parole. Hein. Tu me la donnes pas, moi je la prends. C'est très latino-américain, peut-être. Et non, je pense que la fidélité n'existe pas. Et c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, il faut tuer Garcia Marquez pour que le directeur, la réalisatrice, peut faire un film vraiment qui marche comme film, non? Et le cas des chroniques d'une mort annoncée, que peut-être vous connaissez mieux, non? Et moi, ce que je fais quand j'analyse l'adaptation, c'est voir qu'est-ce que le réalisateur a lu dans les romans de Garcia Marquez, parce que c'est pas possible de faire une translation. Et les directeurs qui font une translation sont les pires films, je dis, bon, vous comprenez, non? Vous comprenez mon mauvais français, excusez-moi. Et par exemple, les pires films ont les voix off et les textes. Ils vont lire les textes parce que vraiment les textes sont merveilleux. Mais on a, en cinéma, on veut les images. OK. En chronique de mort annoncée, avec tout l'argent et tout qu'il avait, Francesco Rossi, moi, je l'aurais aimé, mais moi, c'est moi, non? Et à Sicile, comme une mafia, c'est ces deux frères qui vont tuer un type qui a plus d'argent et qui a beaucoup d'argent parce qu'il a, comme on dit, il a séduit, mais plus que séduit, sa sœur. Et bon, et les maris l'a dévolvio, l'a retourné. Et 27 ans après, ou 17 ans après, le mari l'a retourné, et happy end. Mais les films, c'est. Non, les romans, c'est l'histoire de la mort, de la violence collective. Fuente Vejuna soy yo, il l'a dit. Et Francesco Rossi, il n'a pas fait le film à la mafia, à la Sicilia, avec tout qu'il avait. C'est pas grave s'il a fait avec des acteurs italiens ou non. Il est venu et il a fait une carte postale des Caraïbes. Il a pris un village, il a lo pinto todo de blanco.
Il a peint tout en blanc.
Tout parfait. Il a amené Ornella Muti. Vous connaissez? Ok, la très 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 belle Ornella Muti, c'est pas possible qu'elle soit vierge. C'est-à-dire, et c'est incroyable, parce que dans les romans, elle était maigre, pas très, c'est-à-dire, c'était la moins, la moins fea, la moins laide de la famille. Elle était très, très, si, flaque. Elle était en noir, complètement tout, parce qu'il y a les luttes, non? Toujours les luttes, le duel.
Non, les deuils.
Les deuils, excusez-moi. Et on voit Ornella Muti et on dit, elle est merveilleuse. Après, et ça, c'est le casting, disons. Il y avait los carniceros, les bouchers. Que c'était deux modèles de passerelle de Portugal. Et personne soudava, comme on dit ça.
Personne ne transpirait.
Non, il n'y avait pas de bigote.
Il n'y avait pas de moustache.
Ça, c'est pas colombien, non. Mais surtout, lui, il a fait une grande, grande histoire d'amour. C'est-à-dire la fin du film, c'est le moment que Rupert Everett, très 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 bon, guapo,
très beau,
très bon, revient avec de petites canitas,
like des cheveux blancs,
mais avec des rayons, super. Trouver Angela Vicario, il a fait un caminito de cartas,
un petit schéma
de lettres, et à la fin il était là, et lui elle descend, elle court avec suivant les lettres, et il les retrouve, l'embrasse, et fin, on voit une photogramme si pouc seulement de Santiago Nazar, au milieu de la place. Et c'est fini. Et c'est une histoire d'amour, surtout. On oublie Santiago Nazar. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, même si le film est beau, non, ça ne marche pas, non? Parce que, c'est-à-dire, je crois qu'il trahit le plus important, que c'était la violence. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez, vous l'avez vu, j'imagine, Emmanuel.
Oui. Eh bien, tout à fait. Tout ce que vous dites sur les invraisemblances, les erreurs de casting, tout ça, c'est lié aux difficultés de production, alors dont Francesco Rosi s'est expliqué dans les interviews de l'époque. C'était aussi très critiqué par la presse. En fait, il y a un terme. Alors, il y a aussi le fait que c'est une coproduction, ce qui génère énormément de contraintes. Il fallait que les acteurs portugais, français, italiens, espagnols, que ce soit vaguement filmé en Colombie. Et donc, les anglo-saxons ont un terme très méprisant pour désigner ce type de production, ils appellent ça un Euro-pudding. Et c'est un peu ça. Donc, ça a tous les problèmes de production des coproductions européennes où personne ne parle la même langue, tout le monde vient avec des cultures cinématographiques différentes. Et c'est un film de producteurs, finalement. Donc, il y a ça. Mais je pense aussi, de la part de Francesco Rosi, ce qui est surprenant, parce que je pense que c'était quelqu'un qui était bien préparé à tourner ce genre, enfin, à tourner cette adaptation, parce qu'il avait déjà tourné dans les années 60, en 63, Salvatore Giuliano, qui est une histoire assez proche, en fait, de celle que raconte Garcia Marquez dans Chronique d'une mort annoncée. Bizarrement, il s'est contenté, comme vous l'avez dit, de faire une lecture très plate, très, très appliquée de quelques moments du roman. Il est passé... Alors, il s'est heurté aux difficultés dramaturgiques dont je parlais tout à l'heure. Il n'est pas évident de tirer une dramaturgie intéressante d'un point de vue scénaristique du roman, mais en plus je pense qu'il est passé à côté d'éléments, de motifs d'écriture qu'il aurait pu extraire pour les transposer dans le domaine cinématographique et faire ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire une traduction, c'est-à-dire que traduire c'est dire la même chose mais autrement,
avec les langages,
voilà, donc il aurait pu traduire un certain nombre de motifs présents dans le roman de García Márquez et les adapter au cinéma. Alors, je pense qu'il y a deux motifs qui étaient à ne pas manquer, qui était celui du labyrinthe. C'est une enquête, on cherche, on se perd dans les rues de cette ville pour savoir la vérité qu'on ne découvre sans doute jamais. Et il y a un autre motif qui est récurrent, c'est celui du cercle. On revient, c'est le temps circulaire, des va-et-vient, des déambulations également circulaires, des événements qui se reproduisent. Et tout ça n'apparaît pas dans le film à aucun moment. Un moment, par exemple, où on aurait pu avoir cette présence du motif du cercle, ça aurait été facile à faire, parce que ça a déjà été fait d'ailleurs par García Márquez dans un autre film, c'est la mise à mort du héros. Elle aurait pu avoir lieu, par exemple, dans des arènes. On aurait retrouvé ce motif du cercle et en même temps du destin tragique du héros.
Il avait fait Carmen.
Et oui, en plus, voilà, il avait fait Carmen, il aurait pu y penser. Et García Márquez lui-même avait eu cette idée dans un film qui a beaucoup de points de ressemblance avec Chronique mort annoncée, qui est Tiempo de Morir.
Exactement.
Tiempo de Morir, là, on retrouve ces motifs-là exprimés dans le scénario Et curieusement, on se dit que la meilleure adaptation de Chronique d'une mort annoncée, c'est Tiempo de Morir.
Exactement.
Alors, puisque, excusez-moi, je vous coupe, mais puisqu'on parle de cercle, effectivement, on pourrait continuer circulairement longtemps dessus. Alors, malheureusement, on va devoir rendre la salle. Donc, je vous invite à poursuivre autour d'un petit cocktail dans les salons du bas, offert par l'ambassade de Colombie. Et ce sera l'occasion de poursuivre aussi cette discussion. Voilà, merci. Et merci également à Marie-Lo Descortes et Emmanuel Vincenot.
Et une dernière petite chose, il y a beaucoup de films de García Márquez en internet qui on peut décharger gratuitement parce que ce sont vraiment très difficiles de trouver, donc je vous invite à aller voir.